mais les troupes azerbaïdjanaises occupent des sections de la frontière arménienne.
Voilà, on n'a pas mis ça en, on n'a pas mis ça en balance.
Le gouvernement arménien a même officiellement sur ses sites web où il diffusait des informations en faisant état que 131 villages arméniens étaient...
Arméniens et 131 km2.
131 villages arméniens avaient perdu des territoires qui étaient occupés à l'Azerbaïdjan. Alors faire passer la pilule auprès de l'opinion publique que dans ces conditions-là, l'Arménie va donner unilatéralement des territoires à l'Azerbaïdjan, évidemment, c'est quelque chose, un exercice extrêmement difficile et qui ne peut être qu'effectivement que gêné aux entourneurs, au moins, tout le moins qu'on puisse dire.
Alors je vous faisais l'allusion avec l'Arsar et ce traité d'Alma-Ata. Vous avez entendu cette semaine, vous avez vu Ardak Beglarian qui était en France. Sur la question de l'Alsace, on semblerait même qu'aujourd'hui, il y a de la tension entre les anciennes autorités de l'Alsace et l'Arménie, et qu'il y ait la question du droit au retour, ou même la question de l'expression des Arméniens d'Alsace en Arménie, gêne également le gouvernement arménien.
Oui, ben écoutez, le gouvernement arménien, le gouvernement arménien ne veut, veut absolument pas gêner des négociations avec l'Azerbaïdjan pour la sécurité de l'Arménie, pour la question du Karabakh. La question du Karabakh, d'abord Pachinian a dit que de toute façon, il l'a dit officiellement dans une interview donnée à la presse britannique que l'Arménie n'avait pas les moyens. Sur le plan militaire, n'avait pas les moyens, voilà. Et puis, que cette question du Karabakh, je pense que pour l'instant, en tout cas aujourd'hui, l'Arménie, tant qu'elle n'aura pas garanti sa sécurité sur ses frontières, ne se prépare pas, préparera certainement pas à soutenir des initiatives visant à reconnaître et à défendre les droits des Arméniens du Karabakh, autrement peut-être que sur le plan juridique, en portant l'affaire devant différentes instances internationales, comme la Cour internationale de justice, où la question a été portée par l'Arménie, il faut quand même le rappeler. La question de savoir, est-ce que l'Arménie va emmener cette affaire auprès d'autres juridictions, comme la Cour pénale internationale, auquel elle a adhéré tout à fait récemment, c'est une question ouverte et pour l'instant, on n'a pas la réponse. Maintenant, cette question des droits de retour des Arméniens de Karabakh a été, finalement, cette question du Karabakh est liée intimement, visiblement, avec cette affaire du Dazbouch, puisque, comme je vous l'ai dit, les troupes russes ont pris acte et se retirent du Karabakh, mais dans le même temps, tout en saluant, vous avez dit tout à l'heure, que les ministres des Affaires étrangères du G7 avaient salué l'accord, mais dans le même discours, elles ont également réaffirmé la nécessité pour l'Azerbaïdjan d'autoriser le rapatriement des réfugiés. Sans dire arménien du Karabakh, mais des réfugiés.
Quel statut, est-ce qu'il faut qu'ils soient azerbaïdjanais ou pas? Est-ce qu'ils sont protégés ou pas?
Je ne sais pas, mais il semble que. On peut penser que l'Arménie, officiellement ou pas, est décidée de se reposer sur cette question, sur la bonne volonté de la communauté internationale. Sur d'autres terrains, on a vu ce que ça a pu donner dans le monde. Il suffit de regarder les actualités tous les jours sur et les illusions qu'on peut faire là-dessus. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que cette question n'a pas forcément totalement disparu de toutes les discussions. Apparemment, si le ministre des Affaires étrangères du G7 mentionne ce point, c'est qu'il y a, à mon avis, il y a une raison. Voilà, ce qui explique d'ailleurs pour lequel, sans doute, la mauvaise humeur des Russes et des Azerbaïdjanais, parce que je pense qu'ils ont accepté que les Azerbaïdjanais ont accepté de citer cet accord, en étant sûrs que l'Arménie ne présenterait pas de revendications vis-à-vis du Karabakh. Voilà, le voir ressortir cette question au niveau du G7, peut-être que je ne sais pas. Enfin voilà, on peut tout imaginer. Bon.
Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Chronique de la Troisième République. Ma dernière question va quand même porter là-dessus. comment vous jugez cette période dans laquelle nous vivons en termes de défense de cette indépendance chèrement acquise. Est-ce que on est sur le reculoir, mais est-ce qu'on est sur un reculoir forcé ou sur on est sur une stratégie voulue par les dirigeants actuels de l'Arménie?
Écoutez, le monde traverse une période de chaos. Voilà, je vous parlais des actualités. Il suffit de voir à quel niveau en est arrivé le droit humanitaire international. On peut se demander même si c'est encore si ça existe cette notion-là, puisqu'ils sont violés tous les jours. Il y a une guerre atroce qui se produit en Ukraine à nos frontières. On voit ce qui se passe en Palestine. Que vous dire ? Quel est l'avenir ? Est-ce que les dirigeants arméniens sont responsables entièrement de cette situation ? Non, on a vécu une période, la guerre du Karabakh est intervenue à un moment du désengagement américain avec le cours de la présidence de Donald Trump, voilà. Peut-être que cette question ne serait pas intervenue. Enfin, il y a une conjonction de facteurs qui font que l'Arménie traverse des heures extrêmement sombres. Et voilà, moi, la seule équivalent que je vois pour moi dans l'histoire, en dehors de l'histoire des Arméniens, enfin, c'est quelque chose que l'on vit, c'est pour la région l'équivalent de ce qui serait passé pendant la Seconde Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale. Voilà, donc l'État arménien est en train de redéfinir son espace. Voilà, on croyait que les frontières qui étaient celles de l'Arménie, qui étaient héritées de l'Union soviétique, plus le Karabakh, étaient des frontières indestructibles, même quand même que la carte ethnique des Arméniens et leur répartition modulo l'immigration économique et était leur espace était désormais constitué. Apparemment, cet espace n'est pas délimité. Il est remis en question. On a vraiment le sentiment sur le temps long que tout s'est arrêté en 1920 et qu'en 1920, on continue l'histoire au moment de la chute de la première république indépendante et que l'histoire a repris à partir de là. Alors, où est-ce que ça va se terminer? Je ne sais pas. Il y a un retour de l'impérialisme turc, voilà, enfin, l'Empire Ottoman, un retour de l'Empire Ottoman plus qu'une Turquie, voilà. Donc, quand les grands empires s'affrontent, parce qu'on assiste à ça, nous, on est au milieu et on doit essayer de survivre. Alors, est-ce que le gouvernement arménien est responsable, il a sa part de responsabilité, sans doute, mais il n'y a pas que lui. Enfin, voilà, donc c'est, pour l'instant, c'est difficile d'y voir clair. Je pense qu'il est important, surtout, d'essayer de se sortir de cette situation. Et voilà, maintenant, je veux dire que l'on critique...
Est-ce que, sans vous demander ce que vous feriez, mais... Quelle piste vous pouvez envisager pour sortir de cette situation ?
Écoutez, les pistes de cette situation, vous savez, ça fait quelque temps que je suis l'Arménie, et que je suis le terrain, que je suis... particulièrement depuis la guerre, j'y suis allé je ne sais combien de fois. Sur le terrain, ce qui remonte, c'est que l'information est cachée, volontairement ou pas volontairement. Donc on ne sait pas ce qui se passe en fait, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière les paravents, beaucoup de choses ne sont pas dites, beaucoup de choses se passent. Donc qu'est-ce que j'aurais fait, je ne sais pas, je n'ai pas les données et toutes les cartes en main. Mais d'une façon générale, je sais aussi que ce n'est pas ici que nous qui avons quelconque influence sur le cours des événements qui se déroulent en Arménie, que ça se passe, que c'est aux Arméniens d'Arménie de prendre en main leur destin. Alors, ils semblent pas vouloir pour l'instant vouloir pour l'instant, enfin, il n'y a pas de révolution pour l'instant en Arménie, même s'il y a des mouvements là en ce moment. Est-ce qu'ils ont choisi de faire confiance à leur gouvernement qu'ils ont élu? Bon, ben, nous verrons où ça mènera. Qu'est-ce que l'on peut faire? Je n'ai pas les cartes en main pour vous dire qu'est-ce que l'on pourrait faire. Voilà.
Bon, il y a aussi la possibilité justement de positionner l'armée sur ses frontières et de ne rien céder, de négocier mais de ne rien céder.
Oui, ben il y a toutes les options qui sont sur la table, mais bon, c'est pas la direction qu'a choisi le gouvernement arménien apparemment.
Ah, ça c'est clair. Merci beaucoup Valé Termination pour cette interview et puis on vous retrouvera prochainement dans les pages de France Arménie, puis sans doute avec un reportage dans ces zones très prochainement. Merci à vous.
Merci.
Nous avons maintenant en ligne Anaïda Gopian, la présidente du CDCA, avec qui nous allons revenir sur ces commémorations du 24 avril et plus particulièrement sur les déclarations politiques d'Erdogan et de Nicole Pachignan. Anaïda Gopian, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous sait un petit peu souffrante, on ne va pas vous garder très longtemps. D'abord, quel est votre sentiment sur quel bilan, quelle perspective vous tirez de ce 24 avril qui vient de se couler, tant en France qu'en Arménie ou dans le monde ?
Écoutez, je vais reprendre une formulation de Moulad Papazian parce qu'elle me paraissait être très juste. Il disait que c'était le pire 24 avril depuis le 24 avril 1915 et je crois que c'est très vrai. Entre les prisonniers otages en Azerbaïdjan, entre tout ce qu'on est en train de vivre, le Tavouche, les déclarations de Nicole Pachignan, les déclarations d'Erdogan, c'est un 24 avril très difficile et je crois que les Arméniens doivent être plus que jamais au rendez-vous de ce genre d'événement. Ils l'ont été, il faut continuer.
On a senti quand même une forte mobilisation de la classe politique française pour ce 24 avril, toutes tendances confondues, et on a même eu des discours particulièrement forts, ou en tous les cas, qui ont demandé la fin de l'accord gazier, qui ont demandé à ce que la France n'aille pas à la COP29. Est-ce que ça vous semble satisfaisant? En tous les cas, il semble que la classe politique se soit mobilisée pour ce 24 avril.
Oui, elle s'est mobilisée. Maintenant, il faudra voir les actes le moment venu. Évidemment, la COP29, c'est impossible. C'est-à-dire que la participation de la France, qui représente les valeurs démocratiques dans le monde, dans un pays où en fait on bafoue nuit et jour tous les droits internationaux, où on tient encore des otages, 23 otages dans le pays, c'est en contradiction directe avec tous les engagements de la France. Donc ce serait incompréhensible que la France se rende en Azerbaïdjan pour la COP29. En fait, ce serait jouer le jeu de l'Azerbaïdjan qui veut blanchir sa réputation. Donc, c'est juste incompréhensible en réalité.
Anaïda Gopian, juste un petit commentaire sur les déclarations d'Erdogan, d'abord, qui a donné un satisfecit à l'Arménie pour autant, a exigé un changement de la constitution arménienne et la fin de toute reconnaissance ou réparation du génocide des Arméniens.
Écoutez, Erdogan est dans sa droite ligne dans la politique négationniste de la Turquie. La carte est dans le camp de l'Arménie en réalité. C'est à l'Arménie de voir si elle veut suivre les menaces d'Erdogan, suivre à la lettre le chantage d'Erdogan. Ce serait quand même hallucinant et en même temps peu surprenant de la part de Nicole Pachignan en réalité. Mais je veux dire, si on cède sur ça aussi, alors qu'est-ce qu'il nous reste à la fin, quoi ? Très difficile.
C'est pas nouveau, mais justement, ces déclarations viennent après celles d'Antrani Kocharian, qui demandait la publication de la liste des noms, des prénoms, des lieux, etc. On sent qu'il y a une forme d'emprise de la Turquie, sacrifiant tout ce qui fait d'elle une Arménie, quoi.
Oui, et surtout, moi, je veux voir l'efficacité de cette stratégie, quoi. Ça fait 4 ans maintenant. On a vu que cette stratégie n'a jamais payé. Donner plus de terres à un pays qui veut te voir disparaître de la carte, je ne sais pas trop en quoi cette stratégie elle est payée pour la question soit reconnue. Donc, c'est très très dangereux. On suit ça de près et on espère surtout que ça ne va pas aboutir.
Mais écoutez, Anaïda Gopian, on ne va pas vous embêter plus. Merci encore pour cette courte interview. Soignez-vous bien Et puis, on vous retrouvera plus longuement sur nos antennes à une autre date. Merci avec encore.
Plaisir. Merci beaucoup.
Voilà. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin sur ces sujets-là. Je remercie Arak Beglarian, Vahe Termination, Anaïda Gopian d'avoir pu participer à cette émission malgré le fait qu'elle était souffrante. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Carte sur Table. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet radio-ipfm.com ou sur YouTube ou sur notre page Facebook. Et puis vous pouvez la réécouter également demain matin à 9h15 dimanche pour voir encore une fois cette émission. À la semaine prochaine pour un nouveau Carte sur Table.
çın kaçar Aski isman has hurt mer Sirotacar surt her vur mokva miser Çem karoğ çasel ay sor yes kes Çem karoğ aprel arants kes yes Çem karoğ çayrvel arants kes yes Çem karoğ espes
Ay güneş balı sanım, ciğer ıslanır Oh, יש כוח טוב אילת כוחקי
Shirchelem shat yergine Togelem indun cher Yerkelu yerks hayere Sirumem im hayaskis Agotumem bolorit Yevuzumem daradzer دیگر که باغچش خری. من تی روب زنش خروم ارابار یرگیر نروم من تو تو تا پراغان گارو تردو فاویدیان من گرگنگ میشتا یرن آغو تنگ میشتا یرن چه مورانک مایر لزون بار منک میشت های 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 های
یو ایس پس ایس پنچم هیغاپوغاگان یرکیرو میچو چاو ուզեմ երախտագիտ դյունը սայտնել ձեզի սիրելի հեղափոխաշուն շրջանում, որոնք չպիտի գարենային հարադևել առանց ձեր քաչալերման ու հետևահաղագրության։ 25 տարիներ շարունակ մեկնաբանելով հեղափոխաշուն երկեր, որոնց նողերը դիգում կանգնեցան այն հազարավոր մարդիկներուն ֆեդայիներուն, որոնք գարչած մնացին իրենց իդեալին՝ մայր Հայաստան։ Հետևաբար այս ոչ մհավակացող հեղափոխական երկերը ուզեմ նվիրել անոնց, իշելով ու պարապանելով անցյալի ու ներկա քաղաքական բանդարգյալներում և աբական գերդով քալի ազատամարտիկներում, գեցե հայ ժողովուրդը և գեցե հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։
Հրությունը թախիցը ու սիրդս Ինչ որ աշխարին իմ մասին կասեն չլսես Ես քեզ ամեն ինչ կտամ շունչս հայաց կսոքիս լույսը կբացվի կչորանան արցունքները Դուշը շուկով կասես վիշտը դժբախտություն չի Մենք այս կյանքի մի բախտի երկու մասներ Ես վիշտը դժբախտություն չի Մենք այս կյանքի մի բախտի երկու մասներ Ու իրարից մենք ոչ մի տեղ չենք բախչի Դու հեռանում էիր
ինձանից սիրելիս, եվ վերադառնում էիր մեղքերը թողելիս, դու ասում էիր, դե ինչ սկսենք ամեն ինչ նորից, ու ես հոնում էի քեզ հյուրասիրում նորից, լույս է գված մի կչորանան արդունքները, դու շեշուկով կացես միշտ դժվարդություն չի, մենք այս կյանքի մի պատի երկու մասներ, ու իրարից մենք ոչ մի տեղ չենք հաղջի, լույս է կպած մի կչորան աննացողները, դու շեշուկով կասես միշտ դժվարդություն չի, մենք այս կյանքի մի պատի երկու մասներ, ու իրարից մենք ոչ մի տեղ չենք. Շերները այնքան կարճ է այս կյանքը, սերը կարճ ավելի, դու բոլոր անցած քոնեղությունը մոռացել ես, դու մոտեցիր ինչպես միշտ ասա իմ սիրելիս, լույս է գված մի կչորան աննարցունքները, դու շեշուկով կասես միշտ դժբախտություն չի, մենք այս կյանքի մի
Սանողական հավաքը Youthlinks Europe դեղի բիդի ունենա 3-4-5 մայիս 2024-ին Իդալիով Վենետիկ կաղաքին մեջ։ Աշխարի զանազան անգյուններ են, հատկավես Եվրոբայեն 18-28 տարեկան հայ երիտասարդներ բիդի համախմբվին և երորյա մշակութային հագեցած չապատավերջմ անցնեն։ Մասնակցության սակ 250 եվրո։ Ավելյալ տեղեկություններու համար կարելի է այցելել ընկերային ցանցերու հետևյալ հասցեներ Instagram Youthlinks Europe, Facebook Amaskain Youthlinks Europe, site web www.youthlinkseurope.org. Աջաբարե եւ արցանակը։
IPFM à votre service pour accompagner la promotion de votre entreprise, de votre commerce ou les initiatives de votre association. IPFM se tient à votre disposition. Diffusée sur Paris, Marseille et Nice, notre antenne vous permettra d'atteindre un large public auquel il convient d'ajouter les internautes qui nous suivent en direct partout en France, mais également à l'étranger via notre site internet. Prenez contact avec nos services qui vous réserveront le meilleur accueil et qui vous proposeront la formule la mieux adaptée à vos projets et à votre budget. Appelez le 01 43 53 19 90, 01 43 53 19 90 ou laissez-nous un message sur hyperadio@wanadoo.fr et nous ne manquerons pas de vous recontacter.
Franck Papazian, bonjour. Vous êtes le président de Media School. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre groupe ?
Nous avons 32 écoles spécialisées dans toute la France et en Europe. Nous avons fait l'acquisition de médias comme CB News, Stratégie et le Journal du Luxe, ainsi qu'une trentaine d'événements. Lorsque l'étudiant entre dans une école Media School, nous allons le suivre tout au long de sa vie avec de la formation, de l'information et un réseau de professionnels qui continuera à le recruter.
Pour en savoir plus sur Media School, rendez-vous sur le site mediaschool.eu.